Cool. Yes. Vous m'entendez? Moi, je m'entends pas. J'ai les oreilles bouchées, le nez bouché. Enfin, c'est bien. Je crois que c'est un beau métier, boucher. J'ai toujours bien aimé. On a un Dieu de grâce qui est merveilleux. Voilà, merci. C'est bien de savoir ce que Dieu fait. C'est bien de voir que Dieu agit encore aujourd'hui, qui fait des choses extraordinaires, qui sauve encore les âmes. Et on est sur cette terre pour ça, pour amener les gens au ciel. On est là pour servir Dieu et je pense que si on n'a pas dans notre cœur ce désir d'amener les gens au ciel, il nous manque quelque chose. Alors pour vous aider, pour vous encourager à ce que l'amour des âmes soit dans votre cœur, je voudrais demander à Bastien de venir partager un témoignage plus ou moins long. Enfin, il ira, il le fera, hein, c'est pas un problème. Et il va vous dire ce qu'il a entendu la semaine passée, c'est ça? Et qui fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que ça vous fera du bien.
Cool. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Bastien, comme il a dit, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, du coup, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas revenu dans l'église. Parce qu'il y a pas mal de déplacements, formations, travail et tout ça, et puis vacances aussi. D'ailleurs, Rachel n'est pas là, mais vous fait un gros bisou depuis Mulhouse. Alors, la semaine dernière, j'étais en Suisse. Ok, tout le monde sait où est la Suisse, ça va? Ok, ça va? Pas compliqué. On était perché au-dessus d'une montagne, c'était une station de ski, on n'a pas fait de ski, mais c'est pas grave. Et là, en fait, on se retrouvait, c'était un forum, un petit peu des personnes qui, comme moi et bien d'autres en Europe, sont motivées par le fait de parler de Dieu et partager leur foi aux autres, aux ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ils appellent ça le forum des évangélistes. C'est un grand mot pour en fait accueillir tous ceux qui veulent partager l'évangile. Et puis, d'ailleurs, s'il y en a l'année prochaine qui veut venir avec moi, il y a de la place. Pendant ce forum, on est là entre des personnes qui aiment partager l'évangile et c'est aussi l'occasion de voir ce que Dieu fait au travers de chacun, au travers de leur travail, au travers de leur occupation, dans leur programme, tout ce qui se passe un petit peu dans l'église, mais en dehors. Et c'est l'occasion aussi de voir ce que Dieu fait directement dans la vie de la personne. Et je me retrouve face à une fille qui s'est convertie il y a 2 ans. On a chanté avant « Ô ce nom est victorieux ». Vous êtes d'accord? Il y en a qui croient à la victoire de Jésus vraiment sur la puissance du mal. Cette fille me raconte son témoignage et je suis surpris, choqué, remis en question, un petit peu chamboulé dans ma foi, en bien, parce que cette fille me raconte un petit peu son histoire et me montre comment Jésus est victorieux. Donc je vais vous expliquer ça. C'est une fille qui vient d'une famille très pauvre. Je vais pas dire plein de détails, je vais aller un petit peu à l'essentiel, mais une fille qui vient très pauvre et qui a grandi un petit peu dans une success story où d'un coup elle se trouve à la tête, des têtes, des têtes, et elle côtoie des gens très 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 haut placés. Très, 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 très haut placé. Il y a peut-être des gens qui ont rêvé de parler ou de voir un président, une star, machin. C'était son quotidien. Et elle m'a autorisé de dire son témoignage, mais certains détails à ne pas les dire, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais dans cette grande ascension sociale où elle travaille dans une entreprise, une très grosse entreprise, elle gagne un très gros salaire, elle vit dans le luxe, elle peut s'acheter tout, elle n'a aucun problème. Elle est face à elle-même en se disant waouh, c'est génial ce que j'ai vécu. Et elle commence à un petit peu pavaner son luxe, sa réussite, et un petit peu devant sa famille, devant ses amis en disant regardez, regardez-moi. Sauf qu'elle tombe un petit peu dans un côté où elle se rend compte, mais elle ne sait pas trop comment s'en sortir, de ce succès qui la rend un petit peu une femme objet pour les hommes, qui la rend intéressante parce qu'elle a beaucoup d'argent, qui la rend impressionnante parce qu'elle a une sacrée carrière, parce qu'elle côtoie monsieur un tel, une telle. Et en fait, elle est dans ce luxe total, dans cette grosse entreprise, elle veut vraiment s'acheter tout ce qu'elle veut. Et elle se dit, ok, là, il y a un blème, il y a un gros problème. C'est parce que mon copain, qui est très, très, très haut placé, commence à me battre. Sauf que dans ses amis, super luxe, pareil, machin, elle ne trouve pas de réconfort pour pouvoir parler de quelque chose qui lui fait mal et elle ne sait pas comment en sortir. Pourquoi? Parce que ces personnes vivent sûrement la même chose, mais ne veulent pas le dire. Pourquoi ? Parce que sortir de ça voudrait dire partir de tout ce luxe, partir de tout ce confort, cette aisance. Et en fait, là, elle dit, là, je me trouve piégée. Piégée dans un monde où j'ai tout, mais je veux tellement pas ça. Je veux ce confort, mais je veux tellement pas de cette hypocrisie. Je veux ce confort, mais je veux pas de cette haine, je veux pas de cette violence. Comment je fais ? Donc, elle se rappelle d'une personne très importante dans sa vie qui est sa grand-mère, mais qui est décédée. Elle s'est dit, je vais la consulter. Et elle commence à chercher, en fait, à rentrer en communion avec sa grand-mère pour avoir des conseils, parce qu'elle était une personne de grands conseils, de grande sagesse. Et elle commence à ouvrir des portes comme ça spirituelles. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on est d'accord, il y a le bien et le mal sur Terre. Et il y a le monde de Dieu qui nous veut du bien, qui est amour, qui a envie en fait de rentrer en contact avec nous et de nous déverser cet amour qu'il a pour nous. Et à ce côté un petit peu du diable, qui est complètement opposé à Dieu et qui veut lui contrer et attaquer tout ce qui appartient à Dieu. Quand on décide d'accepter Jésus dans notre vie, on devient une personne qui fait partie de la famille de Dieu. Donc on devient un ennemi du diable. Ok, jusque-là ça va ? Vous n'êtes pas arrêté en Suisse, hein ? Vous êtes toujours avec moi ? C'est bon ? Et cette fille en fait se retrouve un petit peu entre les deux. Pourquoi ? Parce que d'un côté elle ouvre des portes un petit peu à comprendre au travers du mal, la violence, ce qu'elle veut, mais elle veut faire le bien et avoir des bons conseils avec sa grand-mère, mais elle se retrouve en plein milieu en train de se dire mais comment je fais, comment je vis ça ? Et elle, bon bref, je rentre pas trop dans les détails, mais elle commence à connaître la réalité spirituelle du mal. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est une réalité quand même, où elle se fait battre par son copain, mais d'un coup, elle se fait battre par des puissances difficiles, démoniaques. Et là, elle me dit, Bastien, la puissance physique d'un homme n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu après. Moi, je me suis face à moi-même, je me dis, oh là là, j'ai jamais vécu ça. Mais bref, je ne vais pas vous faire peur, mais juste pour vous dire, en fait, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe de l'autre côté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, en fait, j'essayais de rentrer en contact avec ma grand-mère, je me disais, j'arrivais pas, je trouvais pas de conseils, je me suis dit, je vais appeler un chaman. Donc elle va pour consulter un chaman, donc un gourou spirituel, toujours le côté un petit peu négatif, enfin un petit peu complètement négatif, mais bon, je veux pas apeurer les gens, on pourra en parler si vous avez des questions plus tard. Mais l'idée, c'est qu'elle va pour consulter ce gars, et il se trouve que sa maman, qui est dans le sud de la France, pas chrétienne, pas croyante, pas assez religieux, mais pas du tout pratiquante, parle de cette situation à sa collègue, qui, elle, est chrétienne. Sa collègue chrétienne dit, viens, et commence à prier pour la fille de sa collègue, et lui dit, viens, amène ta fille ce week-end, je vais prier pour elle. Je veux lui présenter l'autre côté, pour qu'elle puisse connaître aussi, et qu'elle puisse faire un choix. Je pense que souvent, en fait, on a un côté, et il nous faut l'autre côté pour faire un choix. Et il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, parce qu'en fait, elles ne connaissent qu'une partie. À nous de leur montrer l'autre partie pour qu'elles puissent faire un choix. OK ? Et du coup, elle lui dit, viens, appelle ta fille. Très mauvaise relation entre sa fille et elle. Et la fille du coup en question, se dit, je vois pas pourquoi je suivrais les conseils de ma mère. De toute façon, elle m'a fait que du mal, j'ai pas besoin d'elle. Toute mon ascension, tout ce que j'ai réussi, c'est pas grâce à elle. Et en plus, elle m'a mis des bâtons dans les roues. Mais quelque chose l'attire en disant, bon, je vais peut-être quand même, je vais voir ma mère, c'est bon, je suis sa fille quand même. Et elle décide d'aller voir sa mère. Et là, en fait, cette chrétienne lui parle de tout ce que Jésus est venu faire sur terre. Donc, si vous ne connaissez pas, je vais vous le réexpliquer en très, très petit, très court. Mais il y a un moment, Jésus voit la souffrance du monde. Voit le côté où il a ce monde dans lequel on vit a envie de sortir de ses souffrances, a envie de sortir de ses blessures, a besoin d'une solution pour être aimé, cherche désespérément à être entendu, à être accepté, à appartenir à une famille de personnes qui l'aiment. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas cette vie-là, mais il y a Jésus qui, à un moment, se dit « Toutes les solutions que j'ai pu apporter à ces hommes sur terre, elles n'ont pas marché. Elles ont marché pour un temps, elles n'ont plus marché après. » Et là, Dieu dit « La seule solution, c'est que je vais envoyer Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a la capacité de porter tout ce mal, toute cette souffrance sur lui. Il a la capacité de prendre pour cette fille que j'ai rencontrée tout ce lot de problèmes qui pesait sur elle autant. Elle vivait dans le luxe, mais elle vivait dans la violence, elle vivait dans la haine, elle vivait dans la colère, elle vivait dans la souffrance de ne pas être acceptée, de ne pas être aimée, de ne pas savoir qui elle était. Je suis une femme objet, elle me disait, mais j'en étais contente parce que c'était comme ça qu'on m'admirait, elle me disait. Elle est perdue dans son identité, et là, tu as Jésus qui est capable de prendre tout ça et dire, je vais le prendre sur moi et je vais te le débarrasser. Si c'est lourd pour toi, je vais le prendre sur moi. Et tu verras qu'en ressuscitant, ça sera parti. Et tu pourras avoir une nouvelle vie. Quand elle entend ce message, elle entend quelqu'un qui l'aime sans même avoir à faire quelque chose. Toute son ascension sociale, c'est parce qu'elle a dû faire des choses. Elle a dû se sacrifier, elle a dû ouvrir des choses, elle a dû porter certaines choses, elle a dû se mettre contre certaines personnes. Et là, d'un coup, il y a quelqu'un qui l'aime sans même qu'elle ait besoin de faire quelque chose. Et qui lui dit, tu sais tes souffrances dans lesquelles tu n'arrives pas à sortir. Je peux les prendre. Je les ai prises. Viens, je te donne ce réconfort. Et en fait, elle découvre cet autre côté de l'histoire. Elle dit, mais on n'a jamais parlé. Pourtant, j'ai grandi dans un pays qui est religieux, mais on ne m'a jamais parlé de ce Jésus-là, qui m'aime malgré toutes mes erreurs. Et là, je ne veux pas dévoiler le truc, elle m'en a dit, et ouais, il y en avait une grosse partie. Mais Jésus lui montre, tu vois, juste là-dedans, dans tes erreurs, c'est justement là que je t'aime. Parce que c'est justement pour toi que je suis venu. Et je ne sais pas en fait si ça parle dans l'Église, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce Jésus-là, mais ce même Jésus est venu pour toi. Quand elle fait le choix de se dire « Ok, c'est ça que je veux vivre, c'est cet amour-là », elle décide d'accueillir Jésus dans sa vie. Pendant 2 ans, elle va avoir des gros problèmes à pas savoir où se positionner. Il y a toujours ce gars à la maison. Elle veut pas quitter ce luxe, elle veut pas les choses. Et elle se rend compte que Dieu lui demande petit à petit de sortir de ce monde-là parce que c'est pas bon pour elle. Et voilà, en fait, c'est une saison difficile pour elle en ce moment parce qu'en fait, Dieu l'a sortie de ça, elle a pris cette décision, mais elle en est réduite à quasiment rien au niveau de tout ce qu'elle connaissait avant. Donc, plus de luxe, plus de travail. La fille, elle était dans une des plus grosses entreprises au monde, elle se retrouve au Pôle emploi. Et elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, en fait, maintenant, j'ai tout ça? Et je lui dis, mais pourquoi tu continues à croire? Qu'est-ce qui te fait dire que... Enfin, pourquoi tu choisis de continuer dans cette situation-là alors que tu avais tout avant? Pourquoi tu rejoins pas ça? Et elle me dit, Bastien, tu te rends pas compte. La puissance du mal, du diable qui me giflait, qui me battait, qui me faisait voir des situations mais hyper compliquées, en un instant, Jésus l'a effacé et l'a balayé. Elle dit, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché des choses pour arrêter ce supplice. En un instant, Jésus a tout effacé. Elle m'a dit, Bastien, que j'ai rien au monde, mais que j'ai Jésus, il n'y a que lui que je suis. Jésus, je ne sais pas s'il y en a, on est dans cette situation où on a peut-être donné cet accès à Jésus dans notre vie depuis un certain temps. Mais j'ai envie de vous reposer la question. Vous en êtes où par rapport à ce sacrifice que Jésus a fait? À ce côté qu'il a balayé le mal de votre vie pour vous offrir une éternité avec Christ. Il en est où ce côté de « Waouh ! Punaise quoi, t'as fait ça pour moi Jésus quoi !» C'en est où ce truc-là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai appris très tard certaines choses avec Dieu et aujourd'hui, j'apprends dans mon identité certaines choses et je comprends certaines choses. Mais il y a tellement de fois j'oublie ce que Jésus a fait pour moi. Il y a tellement de fois j'oublie le poids qu'il a enlevé et aussi toute la protection qu'il m'offre. Quand j'étais face à cette fille, je pleurais intérieurement en me disant mais tu m'as protégé de tout ça, Seigneur. Et il t'a protégé de tout ça. Ou alors, en tout cas, il te protège aujourd'hui tout ça, ou il t'offre la protection de toutes ces choses-là. Et j'ai juste envie de nous rappeler ces choses-là. Si toi, tu as déjà fait ce pas vers Dieu, de reconsidérer la puissance de Dieu dans ta vie. Et aussi peut-être de reconsidérer l'engagement que tu as fait. Et la soumission à qui il est et pourquoi il est. Moi, je suis le premier à faire des erreurs et à faire des péchés et à tomber et à me relever. Mais j'ai envie d'en arriver à me dire, mais Seigneur, mais comment je peux te faire ça? Sachant que tu as tout balayé comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas ce Jésus dans lequel je parle, et j'ai envie de juste proposer qu'on ferme tous les yeux. Et je vais parler à 2 groupes spécifiques. Le premier groupe, ceux qui sont déjà engagés avec Dieu, qui sont dans un chemin de foi, qui grandissent petit à petit avec Dieu, de considérer ce témoignage en disant, c'est peut-être ta voisine, c'est peut-être ton client, c'est peut-être ta famille. C'est peut-être tes amis. Et cette personne, il a fallu qu'une chrétienne lui présente Jésus pour qu'elle passe du côté de Dieu et qu'aujourd'hui son éternité soit marquée à vie dans le livre de vie. J'ai envie juste de te rappeler que Jésus, il ne t'a pas juste sauvé pour être avec lui. Il t'a laissé sur terre parce qu'il veut que tu apportes aussi ça aux autres. Et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. C'est notre responsabilité à tous de dire et de partager, comme on partagerait une super nouvelle. De dire, mais j'ai la meilleure des nouvelles, j'ai la plus bonne des nouvelles avec moi tous les jours et j'ai envie de te la partager. J'ai juste envie de te remettre face à cette responsabilité, non pas pour t'accuser, mais pour te rappeler pourquoi aussi Jésus t'a sauvé. Et on va commencer à prier pour ça, puis après on priera pour l'autre groupe. Seigneur, merci pour cette grâce de nous rappeler que toi, t'es toujours le même, Seigneur. T'es toujours le même, Seigneur, et ta grâce, elle est toujours pareille. Tu continues à sauver, tu continues à sortir des gens des ténèbres, tu continues à enlever les souffrances, tu continues à apaiser les blessures, Seigneur, à guérir, Seigneur, les maladies, à amener ta puissance dans nos vies de tous les jours. Et on est bénéficiaire de ces choses-là, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, parce que même dans tout ça, Seigneur, dans nos débordements, dans nos dérapages, Seigneur, tu continues à nous faire confiance pour pouvoir, Seigneur, construire ton Église, Seigneur. Aussi imparfait qu'on soit, Seigneur, tu choisis, Seigneur, de passer par nous, Seigneur. Et je te remercie parce que cette Église, avec un grand E qui est ton royaume, Seigneur, il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, mais il a une limite de temps quand même. Il a une limite de temps sur terre, là, aujourd'hui. Et Seigneur, j'ai envie qu'on puisse, tu puisses nous faire grâce, Seigneur, de nous faire confiance à nouveau là-dessus, sur le fait d'apporter ta parole. Avec nos faibles mots, Seigneur. Si avec une graine de moutarde, Seigneur, tu peux nous faire déplacer une montagne, Seigneur, alors la puissance de notre témoignage, Seigneur. La puissance de notre témoignage peut bouleverser des vies, Seigneur. Et je te remercie parce que tu continues à croire en nous. Et je te prie, Seigneur, de vraiment, Seigneur, faire peut-être peser sur nous des personnes en particulier et de nous aider, Seigneur, à activer, à être intentionnel dans le fait de leur montrer Jésus. De leur montrer Jésus jusqu'à leur faire vivre Jésus. Père éternel, je sais, Seigneur, que tu as de la place encore dans ton royaume pour accueillir tellement de personnes. Et je te remercie pour ça. Il va continuer à fermer les yeux. Et s'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce Jésus lequel je parle, qui ne connaissent pas cette personne qui est venue balayer la puissance du mal, s'il y en a qui veulent découvrir ce Jésus qui guérit les blessures, qui guérit les maladies, qui arrive à nous sortir de souffrances énormes, si tu ne le connais pas, et que tu veux connaître ce Jésus qui est mort à la croix et pour l'éternité a assis cette puissance et qui te la met à disposition. Si c'est toi qui veux vivre ça, n'hésite pas à lever ta main maintenant. Continue à fermer les yeux, mais lève ta main. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie juste de savoir avec qui je peux prier et qui je peux encourager ce matin. Je vais laisser juste un temps pour considérer ce que je dis. Si tu sais pas qui est ce Jésus, je suis en train de parler à ceux qui ne savent pas qui est ce Jésus ou qui ne l'ont pas expérimenté de cette façon-là. Lève ta main. Merci Jésus pour cette personne qui lève la main. Merci Jésus parce que tu l'accueilles dans ta famille. Et tu sais son cheminement, Seigneur. Tu sais où elle en est. Tu sais exactement où elle est née dans cette situation, Seigneur. Et pour toutes ces personnes qui peut-être auraient voulu lever la main ou qui ne l'ont pas levé, ou peu importe, Seigneur, tu sais exactement l'état des cœurs de chacun, Seigneur. Et tu sais comment nous retrouver. Alors j'ai envie de te dire merci, Seigneur, parce que ton amour, il est tellement, tellement toujours le même, Seigneur. Ta puissance, elle est la même. Ton autorité, elle est la même. Et quand on est appelé enfant de Dieu, Seigneur, tu nous partages cette puissance. Tu nous fais coactiver, Seigneur, cette puissance aussi dans notre monde, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour toutes les occasions qu'on peut avoir cette semaine. Mais je te prie, Seigneur, de nous mettre face à nos responsabilités là-dessus aussi, Seigneur. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Et pour conclure, hier soir, j'étais un anniversaire et comme quoi Dieu peut se servir de nous quand on est disponible. Vous vous rappelez du message que mon père avait prêché sur la disponibilité? Il y avait deux grandes qualités du chrétien. Une des qualités, c'était d'être disponible. Hier soir, je vais à un anniversaire, 30 ans d'un ami, j'étais tout heureux. Puis, en même temps, quand je sais qu'il y a des non-chrétiens, je me dis bah, peut-être qu'il y aura une occasion pour partager, mais sans forcément faire du forcing, mais juste de se dire cette personne, Dieu l'aime tellement, je ne peux pas juste passer à côté d'elle, et je suis passé à côté de plein de personnes sûrement. Mais il y en avait une en particulier, on a commencé à parler, ça a parlé yin et yang, ça a parlé équilibre, force et mal, ça a parlé bouddhisme, et j'étais tout content. Je dis, il n'y a pas de souci, j'apprends à te connaître. Non, parce que je me dis, en fait, je ne vais pas lui parler juste par envie de lui parler de Jésus, je veux lui parler parce que je l'aime. Et j'apprends à la connaître, finalement, la conversation se poursuit sur toute la soirée, on est plusieurs à porter chacune nos pierres à l'édifice, c'est trop beau. Le gars a entendu parler de l'évangile. Il en arrive à la fin en disant « J'ai jamais entendu parler de Jésus comme ça. » Et gloire à Dieu, hein. Franchement, j'en tire aucune gloire. Il avait mal au dos, il a vu son bassin se remettre, sa jambe se rallonger. Il a expérimenté l'amour de Dieu en direct et il ressort et il dit « Ouais, il y a quelque chose. » Pour l'instant, c'est un peu trop compliqué là, à valider certaines choses, mais il y a quelque chose. J'ai dit « Est-ce qu'on peut rester en contact, mec ?» Il m'a dit « Ouais, j'ai trop envie de te revoir. » Mais tu m'oublies pas, il m'a dit. Hein. Vous voyez comment quand on est juste disponible, Dieu nous, il nous permet d'être à côté des personnes qui sont en recherche. Moi, j'ai juste envie de vous encourager. J'espère que ça vous a encouragé. Ça nous a mis aussi face à nos responsabilités. Mais ce Dieu de puissance qui balaye les démons, les puissances du mal, c'est le même Jésus, c'est le même Dieu que vous avez avec vous, les amis. Chacune de vos situations. Ok, bon allez, je relance le micro. Mais gloire à Dieu. Franchement, applaudissez Dieu. Applaudissez Dieu. Et continuez à prier pour papa hein, pendant qu'il prêche. Parce Amen. Que lui, il s'est pas mis en arrêt maladie.
Avec Bastien, ce qui est terrible, c'est que c'est pas du tout ça que j'attendais. Hein. Enfin, oui, une partie, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et, ou alors, c'était autre chose, quoi. Cette jeune fille, si je me rappelle bien, elle a amené 140... C'est pas elle ? Donc, c'est une autre personne. Donc, moi, j'ai rien entendu, j'ai rien compris au témoignage. Donc, le message, je l'avais fait là-dessus, donc on laisse tomber.
Mais je peux rajouter deux secondes, c'est que j'ai rencontré une fille qui s'est convertie aussi et qui a eu tellement été touchée par l'amour de Dieu dans sa vie qu'elle a aujourd'hui, en quelques petites années de conversion, je crois 7 ans, amené 40 personnes à Dieu récemment, au fur et à mesure, comme ça, juste parce qu'elle dit « Mais attends, on m'en a parlé, je ne peux pas le garder pour moi. Voilà. »
Amen, voilà, merci, ça va bien, ça va m'aider. On a un Dieu de grâce. Merci Seigneur, je te demande de bénir encore ces instants, Seigneur, de te glorifier. Je te remercie Seigneur d'être présent au milieu de nous. C'est vraiment un grand privilège de savoir que tu es là et que tu nous fais cette grâce de parler à nos cœurs, de les disposer Seigneur. Je te remercie de ce que ce matin, Seigneur, ta parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes. On a entendu ces témoignages, Seigneur, de puissance, témoignages où tu transformes les cœurs et les vies, Seigneur. Et je te loue de ce que ces choses soient d'ailleurs réelles dans notre vie, dans ton nom précieux. Et on dit Amen. Gloire à Dieu. Je m'excuse, hein, je vais sortir souvent le mouchoir. C'est fait pour ça aussi. Hein. Voilà. C'est le boîtier. Je vais peut-être prendre le micro. Hein. Non, ça va aller. C'est le boîtier. Cool. Et quand on entend un témoignage comme ça, on se dit, mais c'est pas pour moi. C'est des choses qui sont tellement grandes, tellement fortes. On se dit, mais une personne comme ça, il y en a peut-être une sur la terre qui est prête à tout quitter, qui est prête à faire des choses pour Dieu, quitter le luxe, quitter la sécurité, quitter la notoriété. Comme disait Bastien, une personne qui côtoyait tout un milieu que peut-être beaucoup de personnes aimeraient peut-être côtoyer. Elle a tout quitté pour se tourner vers Dieu. Et quand elle s'est tournée vers Dieu, en fait, elle a tout quitté. Quand elle s'est tournée vers Dieu, elle a perdu son travail, elle a perdu sa notoriété, elle a perdu toutes ces choses. Ça, c'est incroyable. Parce qu'elle a fait le choix. Le choix de privilégier sa vie avec Dieu plutôt que tout le reste qui était peut-être le flonflon, toutes ces choses qui sont là dans notre vie, qui se font beaucoup aussi. Parce que c'est important aussi. Et aujourd'hui, cette jeune fille qui en est là, disant, comme disait Bastien, qui est peut-être à Pôle emploi, c'est pas un problème que Dieu lui redonne tout. C'est pas un problème, c'est un choix dans sa vie pour que Dieu agisse. Et moi, je me dis, cette jeune fille, elle avait tant de foi, tant de persévérance, tant d'abnégation, tant de recherche de la gloire, de la volonté de Dieu, tant d'amour des perdus, tout quitter pour annoncer l'évangile. Je me dis, et moi là-dedans ? Où est-ce que j'en suis ? Et je me dis, si cette jeune fille, elle l'a fait, moi aussi, je suis appelé à le faire. Mais à mon échelle, plus ou moins. Et pour illustrer ce propos, j'aimerais qu'on puisse lire un passage dans la Genèse, au chapitre 18. Alors, c'est un long passage. On va le lire ensemble. Mais on est là pour ça. Genèse, chapitre 18. J'ai un peu du coton dans les jambes. Alors j'en profite pour m'asseoir. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc il est parlé d'Abraham. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. » Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux, il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutez, à l'entrée de la tente qui était derrière lui, Abraham et Sarah étaient vieux, âgés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Sarah, « Pourquoi donc, Sarah ?» Elle rit en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Et elle eut peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Gloire à Dieu. Et moi, j'aime ce passage. J'aime ce passage parce que voilà, c'est un passage qui est plein de calme, c'est un passage qui est paisible, c'est un passage qui est reposant. Abraham, il est là, assis sous la fraîcheur des chênes de Mamré. Il se tenait à l'entrée de sa tente et la Bible dit que c'était le moment de la grande chaleur du jour. Abraham, il aurait pu faire la sieste. Ça aurait été tout à fait normal. Il faisait chaud, il aurait pu faire la sieste avec tout le travail qu'il avait fait. Mais non, il tient son esprit en éveil pour méditer certainement sur Dieu, sur la création, sur l'avenir, sur les promesses de Dieu que Dieu lui a faites. Rien ne troublait sa méditation. Et je me dis, c'est une question que je me pose, est-ce que je suis un imitateur d'Abraham? Est-ce que je n'aurais pas besoin d'heures de calme, d'heures de recueillement, d'heures de recueillement paisible? On peut envier Abraham dessous les chaînes de Mamré. Pourquoi? Parce que les exigences de la vie moderne, elles nous enserrent de leurs contraintes. Le temps passe tellement vite. Et on a toujours, toujours quelque chose à faire. On est tellement agité. Il y a tellement d'agitation que on a du mal de trouver des moments comme ça, des moments paisibles. Et le diable, il fait tout pour nous priver de ce calme, parce qu'il sait qu'on en aura besoin. Il sait qu'on a besoin de nous retrouver devant Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous le voulons, Dieu viendra à notre aide. Si tu manques de temps pour te retrouver devant Dieu, si tu manques de temps en disant « Mais moi, je le veux ce temps », Dieu va t'aider. Il te donnera le temps. Il va vous permettre d'avoir malgré tout des instants de repos intérieur. Pourquoi? Parce que c'est indispensable à la santé de nos âmes. Si je ne suis pas renouvelé intérieurement, mais il n'y a rien qui va. Comme cette jeune fille qui avait tout extérieurement, mais à l'intérieur, elle était mal. Mais le jour où Dieu est entré dans son cœur. Malgré les défis de la vie, malgré les choses difficiles qu'elle a vécues. Aujourd'hui, elle dit, avant, j'étais malheureuse, aujourd'hui, je suis heureuse. Parce que Dieu est entré dans sa vie. Vous savez, on a une semaine de jeûne. Jeûne et prière. Et pendant cette semaine, on a à cœur de revenir à Dieu. On a à cœur de replacer Jésus au centre de notre vie. On a envie de dire, ben, Seigneur, j'ai envie de passer un moment avec toi. Et ça va tout changer. Que Dieu puisse nous interpeller d'une manière ou d'une autre sur la nécessité de la communion avec Dieu. On parle de communion fraternelle, mais communion avec Dieu. Qu'on puisse eh bien, passer du temps avec notre Dieu. Et pour qu'elle se maintienne dans notre vie, il est nécessaire qu'il y ait des haltes. Il est nécessaire qu'il y ait des moments où on s'arrête. C'est pour ça qu'il y a le jeûne aussi. Et pas seulement le jeûne. Dans notre vie, il faut qu'il y ait des moments où on va s'arrêter pour parler à Dieu. Et non seulement s'arrêter pour parler à Dieu, mais pour lui permettre de nous dire ce qu'il a à nous faire entendre. J'ai besoin d'entendre Dieu me parler. J'ai besoin de savoir ce que Dieu attend de moi. Mais si je suis agité, s'il y a plein de choses autour de moi qui m'empêchent de m'approcher de Dieu ou d'entendre Dieu, Dieu ne me parlera pas. Abraham, il a reçu la plus merveilleuse des révélations. Alors qu'au lieu de dormir, allongé au fond de sa tente pour faire la sieste, il était assis sous les chaînes de Mamré. Abraham, il a recherché la communion avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Au chapitre 2 de Genèse 18, il leva les yeux. Il était assis à l'entrée de la tente, sous les chaînes de Mamré. Il leva les yeux et regarda, voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre et dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cette arde. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham, il recherche la communion avec Dieu. Il recherche la communion fraternelle. Abraham, il a à cœur l'hospitalité. Je voudrais vous dire que quand vous ouvrez votre maison, quand vous êtes hospitalier, la Bible dit dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 1, il est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel ». N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous vous rendez compte? Abraham, il voit ces hommes, ces personnes arriver devant lui, et tout de suite, il court. C'est un petit peu, faut voir aussi les choses, il faut remettre dans le contexte. C'est dans un pays d'Orient. Ce sont des gens qui habitent sous les tentes. Et je pense que quand il y a quelqu'un qui passait, c'était une attitude dans la culture d'aller voir eh bien, ces personnes. Mais Abraham, tout de suite, il court vers eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant eux. Et il leur dit, entrez dans ma maison. Parce que c'est pour cela que vous êtes venus. Et si vous avez à cœur de rechercher la communion avec Dieu et la communion fraternelle, alors, sachez que Dieu veut ces choses dans votre vie et que vous allez voir des choses extraordinaires. La Bible dit que des anges peuvent être dans notre maison. Je ne sais pas, je ne veux pas, il y a des personnes qui pourraient vous dire qu'on a chacun un ange gardien. J'en sais rien. Les enfants peut-être, c'est encore assez biblique, mais le reste... Il n'y a pas écrit tout ça dans la Bible, mais voilà, on ne va pas discuter là-dessus. On va pas discuter aussi sur le fait que les anges ils sont mis à manger. Hein? Est-ce que des anges peuvent manger? J'en sais rien. Mais on s'en fiche de ces choses-là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rencontrer Dieu. Amen. Quand on recherche la présence de Dieu, quand on accueille Dieu dans sa maison, quand on persévère dans la communion fraternelle, quand on discerne la présence de Dieu, il y a une chose qui arrive, un miracle. Abraham, il a discerné la présence de Dieu. Il a accepté que ces gens, ces personnes rentrent dans sa maison. Il a recherché la communion fraternelle. Le miracle a eu lieu. Sarah, tu vas avoir un fils. Et l'ange dit, ou l'Éternel, je ne sais, il dit, dans un an, je reviens et tu auras un enfant. C'est vrai que Sarah, elle a été incrédule. Elle n'y a pas cru. Enfin, je vais encore bien me mettre à sa place. Hein. Elle a 89 ans. Abraham, il en a 99. Elle dit, est-ce qu'on aura encore des désirs l'un pour l'autre? C'est tout à fait logique. Et quand l'ange de l'Éternel dit, tu vas avoir un enfant, un fils, elle a ri dans son cœur. Ça veut dire qu'elle a été incrédule. Elle n'y a pas cru. Elle a ri en elle-même. Et parfois, on est comme Sarah. On croit que Dieu pardonne les péchés. Amen. Mais on doute qu'il guérisse encore les malades. Ou encore telle et telle maladie. Celle-là, oui, je suis d'accord. Mais telle maladie-là, je ne pense pas qu'il puisse le faire. Alors, on ne va pas l'afficher devant tout le monde. Ça va être à l'intérieur. Ce n'est pas de l'incrédulité visible. Il y en a qui pensent que Dieu pardonne les péchés, guérit les malades, mais ils n'arrivent pas à croire que Dieu baptise du Saint-Esprit. Ou d'autres même doutent au fond d'eux-mêmes que Jésus va revenir. Ou encore, il peut sauver telle et telle personne, mais celle-là, ce n'est pas possible. Vous voyez, des fois, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas de l'incrédulité visible, mais c'est de l'incrédulité que Dieu voit. Extérieurement, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça se voit. Et peut-être que vous êtes comme ça, moi aussi. On croit certaines choses. On se dit, waouh, super chrétien, mais ça, je ne le crois pas. À l'intérieur, comme Sarah, mais Dieu le voit, parce que devant Dieu, rien n'est caché. Et s'il y a une chose, et si cette incrédulité, elle vient frapper votre esprit, parce qu'elle peut frapper votre esprit, des choses que vous dites, c'est pas possible que ça se passe. Rappelle-toi une chose, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 18 et au verset 14, il est écrit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» À Dieu, tout est possible. Tout est possible. Une remarque encore, c'est que au verset 16, il est écrit « Ces hommes se levèrent pour partir, ils regardèrent du côté de Sodome, Abraham alla avec eux pour les accompagner. » Et quand on attache du prix à la communion avec Dieu, quand on attache du prix à l'adoration, à la communion fraternelle, comme Abraham qui a accompagné ses visiteurs, cette attitude, elle plaît à Dieu. Quand il nous voit apprécier les manifestations de sa grâce, alors Dieu se réjouit. Il est écrit au verset 17, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire ?» Dieu a vu Abraham avide de sa présence. Il a vu un Abraham réceptif à sa parole. Il a vu un Abraham disposé à faire sa volonté. Il a vu un Abraham ouvert au dialogue, ouvert à la communion fraternelle, ouvert à la communion avec Dieu. Alors Dieu va lui parler. Et ça veut dire que plus nos oreilles, elles s'ouvrent à la voix de Dieu, et plus la voix de Dieu, elle se fait entendre à nos oreilles. et surtout à notre cœur. La Bible dit « Celui qui cherche, trouve ». Mais le contraire est aussi vrai. Moins j'écoute Dieu, et moins je reçois de Dieu. Si je ne cherche pas la présence de Dieu, je ne trouverai pas la présence de Dieu. Et la quantité d'eau que vous tirez de votre robinet dépend de la grandeur du récipient que vous allez utiliser. Par exemple, en été, on a toujours des fleurs qui sont à l'entrée, des massifs de fleurs, enfin massifs, hein, des jardinières qui sont belles. Elles n'ont pas séché. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Raymond. C'est pas moi. Hein. Qui s'en occupe ? Et imaginez que Raymond aille arroser les fleurs avec une cuillère à café, à la place d'un arrosoir. Il peut le faire. Hein. Vous voyez, ça dépend de la quantité. Combien c'est important. Si vous vous servez d'une cuillère ou d'un arrosoir pour arroser vos plantes, la quantité d'eau elle ne dépendra pas du robinet, mais de la grandeur du récipient que vous allez utiliser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grandeur des bénédictions de Dieu ne dépend pas de Dieu, mais elle dépend de nos capacités intérieures. Elles dépendent de notre attitude à recevoir la grâce de Dieu. Amen. Et quand on est avide de Dieu, Dieu nous donne des révélations. On a besoin de révélations de Dieu. Tout à l'heure, Pamela, elle a dit qu'on a besoin d'être des amis de Dieu. Abraham, il est appelé dans l'épître de Jacques, l'ami de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, il connaissait Dieu parfaitement. À un moment donné, et on ne va pas le lire parce qu'on a déjà le temps est déjà bien passé. À un moment donné, Abraham, il va faire une chose. Parce que Dieu va, quand il a tellement recherché la présence de Dieu, la communion avec Dieu, que Dieu va lui dire, je ne peux pas lui cacher les choses. Je vais détruire Sodome et Gomorre et toute cette plaine. Et puis, tellement leur péché est monté jusqu'à moi. Alors Abraham, lui, il est ami de Dieu. Et quand on a un ami, on lui parle ben, comme il faut. Et Abraham, il vient vers Dieu et puis il dit, s'il y a 50 justes dans la ville, tu vas détruire cette ville pour 50 justes ? Et Dieu dit, ben, si j'en trouve 50, je ne détruirai pas la ville. Et Abraham, il fait un deal avec Dieu. On a vraiment l'impression que c'est des marchands de tapis. Hein. Il est un petit peu marchand de tapis, mais ça marche avec Dieu. Et Abraham, il descend, s'il y en a 40, s'il y en a 20, s'il y en a 10, puis il dit, s'il y en a 10, je m'arrêterai là. Parce qu'Abraham, il a fait un mauvais calcul. On peut se tromper des fois dans notre calcul. Lui, Abraham, il a cru qu'il y avait 10 personnes qui étaient justes dans cette ville de Sodome. Il s'est dit, il y a Lot, il y a sa femme, il y a ses deux filles, ça fait 4, il y a ses deux fils. Et puis, il y a les deux filles, les deux femmes de ses fils. Et la Bible dit, il y a des gendres aussi. Il s'est dit, j'arrive à 10. Et Dieu a dit, si j'en trouve 10, je ne détruirai pas cette ville. Ça veut dire combien on doit être simple dans notre prière. C'est la première prière de la Bible. La première. La première prière de la Bible. C'est une prière d'intercession. Ce n'est pas une prière pour soi, c'est une prière pour les autres. La pratique de l'intercession nous apprend plus sur la vraie nature de Dieu que tous les livres de théologie qu'on peut avoir. Et combien c'est important. Et nous donne une connaissance qui va se loger dans notre cœur, plus que dans notre cerveau. Amen. On a une semaine de jeûne et prière. Alors, on va inviter Dieu à la table de notre cœur. On va rechercher sa présence, on va l'adorer, on va le retenir, on va l'écouter, on va parler de lui avec révérence, on va aussi parler à lui, on va aussi lui parler avec audace, on va être persévérant dans notre intercession. Abraham, il n'a rien demandé pour lui, et si Sodome et Gomorre ont été détruites, c'est parce qu'il n'y avait pas d'injuste au milieu d'elles. Mais néanmoins, La prière d'Abraham, elle n'a pas été vaine. Il est écrit dans Genèse au chapitre 19, et je vais m'arrêter là, et après je demanderai à Matthieu de venir. Dans Genèse au chapitre 19 et au verset 29, il est écrit « Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre. » Voyez ? Parce que je recherche la présence de Dieu. Parce que j'ai à cœur la communion avec Dieu. Parce que j'ai à cœur de m'approcher de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Il me donne eh bien, cette capacité de prier pour les autres. D'intercéder pour eux. Faire que le monde soit sauvé. Sincèrement, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que les malades soient guéris ? Ça ne me dérange pas. Qu'ils soient malades, ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je veux, c'est que ces malades, ils soient sauvés. Et je sais que s'ils sont sauvés, alors Dieu fera des miracles dans leur vie et il les guérira. Parce qu'on a un Dieu de grâce, un Dieu qui fait des miracles. Et combien c'est important de prier les uns pour les autres. Combien c'est important de croire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Amen. C'est pour ça que quand on prie pour les malades, Dieu guérit. Amen. Pourquoi ? Parce que les âmes, elles doivent être sauvées. C'est ça qui est le plus important. Dieu dit, ne craignez pas celui qui peut amener les âmes, les gens dans, comment ? Dans l'AGN, mais craignez celui qui peut, enfin, ne craignez pas celui qui peut, comment c'est ? Oui, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut emmener vos âmes dans l'AGN. Et c'est ça qui est important. On a un Dieu merveilleux. On va le rechercher. On va rechercher sa face. On va rechercher, eh bien, on a une semaine. C'est court, mais c'est long quand même. On a une semaine pour rechercher Dieu. Et on va commencer par une semaine, et après on va peut-être en mettre encore une après, et encore une après, et encore une après. Aidez-moi, aidez-moi. Et je pense que pendant des années, si on a à cœur de rechercher la présence de Dieu, on sera qui ? On ne va pas jeûner pendant des années. Hein ? Regardez-moi, je ne le ferai pas. Hein ? Je vous le dis sincèrement. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous aime. Alors, je vais demander à Matthieu de venir et lui, il va tout vous expliquer. Je vais rester avec lui aussi un petit peu, mais il va tout vous expliquer sur le jeûne. Il est plus spécialiste que moi.
Non, pas vraiment, mais... non, en fait, cette semaine de prière et de jeûne, on l'a vraiment à cœur. Et pour vous donner un peu le contexte, on s'est retrouvés en début d'année à plusieurs... vraiment pour chercher Dieu, conscient que notre Église n'est pas là où on pense que Dieu voudrait l'amener. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse, etc. C'est juste parce qu'on a soif vraiment de voir Dieu nous amener là où lui il veut. Et du coup, on s'est mis en prière et vraiment, je crois que le Seigneur nous a invités à simplifier les choses dans nos cœurs. Et quand on cherche le Seigneur, bah, il nous donne des directions, ou en tout cas un endroit où il souhaite qu'on aille. Et pour nous, pour cette prochaine saison, ce qu'on croit vraiment que le Seigneur nous invite à vivre en tant qu'assemblée, c'est l'adoration et la communion fraternelle. À vraiment vivre ça de manière très très forte au milieu de nous. Et je vais revenir là-dessus après. Mais c'est en priant, on s'est retrouvés ici, là dans le foyer, on était une quinzaine de personnes. On a prié, on a échangé et en parlant, etc. C'est devenu comme un constat, une simplicité en fait que ce que le Seigneur nous demandait de vivre, c'était de chercher sa face et de se souder les uns les autres, de passer à un autre niveau de communion fraternelle, d'aller plus loin que le bel accueil qu'on a, c'est vrai, le dimanche matin, etc. Mais d'aller dans une direction où on peut vraiment vivre des relations qui s'encouragent, qui sont fortes, où on est là pour se soutenir les uns les autres. Et en fait, finalement, c'est simple parce que c'est ce que le Seigneur il nous dit et puis c'est ce qu'on entend depuis déjà des années. Donc, c'est rien d'autre que deux commandements et une mission. Et c'est Jésus lui répondit. Donc, quand il y a un docteur de la loi qui lui demande, qui vient voir Jésus et qui lui demande quel est le plus grand des commandements, Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est l'adoration de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » On dit c'est le service, c'est aussi la communion fraternelle. Et c'est vraiment ces choses-là qu'on a à cœur de pouvoir vivre. Alors vous allez me dire « Oui, mais comment ?» Eh ben, c'est pour ça qu'on va jeûner et prier. C'est pour ça qu'on va prendre du temps et chercher Dieu. Parce qu'on peut établir des plans, et oui, on est bon, hein, on peut déjà faire des projets, dire alors, pour améliorer l'adoration, donc on va mettre plus de chants, on va faire ci, on va faire ça, etc. Humainement, c'est vrai, on peut établir des plans, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on a à cœur, c'est qu'on vive ça ensemble, et que ça soit son plan qui vienne au milieu de nous. Alors, pendant cette semaine, on va chercher la face de Dieu, on va lui demander comment. On va lui demander vraiment de venir asseoir ces choses en nous, afin qu'on puisse vraiment marcher pleinement et qu'on puisse vivre ça, expérimenter ça. Parce que s'il vit au milieu de nous, s'il est adoré, si la communion elle est forte, alors ça va se voir. Alors ça va être tellement tangible au milieu de nous que les gens ne vont pas pouvoir résister finalement à la présence de Dieu. Donc c'est ça qu'on veut vivre. Et peut-être certains se disent « Ah oui, ça fait, c'est encore autre chose par rapport à ce qu'on a dit aux 10 ans ou par rapport à ce qui a été encore dit au début d'année. » Mais je voudrais vous dire que non, en fait. C'est vrai, on a parlé de la prière des 10 ans, de recentrer vraiment la vie de cette Église sur la prière. Et on a déjà l'intercession, on a les réunions de prière une fois par mois. On a vraiment à cœur d'augmenter, mais c'est vrai qu'on a besoin de direction. On a besoin de voir comment est-ce que Dieu veut faire ça. On voudrait passer à plus. C'est vraiment notre souhait et c'est le souhait de plusieurs. Et amen. On veut aller là, mais on ne veut pas y aller sans une direction. Donc, on va pouvoir continuer de prier pour ça, pour que Dieu nous montre comment avoir un vrai esprit de prière. Et ça va peut-être dépasser simplement les réunions. Ce qu'on espère, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui vienne de nous, hein, qui nous dépasse juste des petits moments dans la semaine, etc. On a parlé aussi de Oswald. C'est vrai qu'on a à cœur la ville d'Oswald. Et cette année, pour ma part, j'ai vécu une expérience assez troublante. C'est en allant au vœu du maire, je me suis senti mal. Je me suis vraiment senti mal, je peux vous dire, juste je ne connaissais personne. Je voyais Raymond avec moi. Lui, il connaissait tout le monde. C'est super, mais c'est vraiment chouette et tout. Mais moi, je me suis dit, oh, je ne connais personne. Ça veut dire que le lien, il n'est pas encore là avec la ville d'Oswald. Mathieu, ben peut-être que tu peux prier plus pour la ville d'Oswald. Je ne me suis pas culpabilisé, entendez-le, mais ça montrait juste une réalité, c'est dire, on n'est pas là où on aimerait être. Parce que s'il y avait vraiment déjà un lien avec la ville d'Oswald, alors les gens, on les connaîtrait, il y aurait déjà quelque chose qui serait établi. Donc, ce n'est pas comme un jugement sur moi ou sur l'Église, c'est juste dans le fait de se dire, hey, le Seigneur, il veut nous amener plus loin, être dans des vraies relations. Donc, c'est vrai, on a besoin d'avancer dans cette dynamique-là aussi. Pour les familles aussi, c'est super. Maintenant, on a ce local qui est acheté, qui va bientôt être mis en place. On espère pouvoir faire une inauguration avec tous les meubles. Pour ça, il y a des personnes extraordinaires qui y travaillent pour avoir tous les meubles et pour pouvoir accueillir les enfants et accueillir toutes ces familles qui vont venir. Donc, on continue de travailler là-dessus, des liens avec les ministères et les églises. On est maintenant en avancée avec l'Entente, c'est un réseau d'églises évangéliques et d'œuvres du Bas-Rhin. On a pu accueillir un petit déjeuner ici la semaine dernière, samedi, où il y avait plusieurs pasteurs qui ont pu venir. On a pu s'encourager et lier des liens et tisser des liens. On va bientôt recevoir des gens qui vont nous expliquer un peu la vision de la Marche pour Jésus qui a lieu chaque année à Strasbourg. On a à cœur de recevoir quelqu'un du CEL, enfin différentes choses pour aussi nous inviter, nous en tant qu'Église, à vraiment prendre part à l'œuvre qui est plus grande que juste locale, mais l'œuvre du Seigneur. Donc ça, on continue ces projets-là. La communauté, c'est des choses sur lesquelles on a mis des choses, mais on voit que ça s'essouffle un peu en place. Donc on s'interroge aussi, on se dit, Seigneur, peut-être qu'il y a des projets humains et on a besoin que toi, au milieu de tout ça, tu viennes faire ton œuvre. Les connecte, on se rend compte qu'il y a peut-être besoin de revisiter ces choses-là, toutes ces choses-là. Donc voilà, on a vraiment besoin de prier pour voir Dieu faire. Faire des disciples, c'est aussi sur notre cœur de pouvoir voir des gens devenir des chrétiens matures qui suivent le Seigneur. Et on avait à cœur de démarrer une école de disciples qui aurait normalement déjà dû démarrer. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, mais pour le moment, on la reporte. On la reporte parce qu'on sent que ce que l'Église elle a besoin réellement, et d'abord, c'est l'adoration et la communion fraternelle. Si on adore Dieu, si on communie les uns avec les autres, en fait, la réalité, c'est que toutes ces choses qu'on a montrées avant, elles vont se mettre en place naturellement. Et donc, c'est pour ça qu'on va prendre ce temps de jeûne et prière cette semaine. Alors, bien sûr, on a quand même des idées, puisque le Seigneur nous a déjà inspiré des choses. On pense que c'est important pour recentrer l'adoration sur Jésus, qu'on puisse prendre une série de messages où on parle vraiment de la personne de Jésus, pour qu'on soit tous sur la même ligne, qu'on puisse vraiment ensemble grandir dans notre connaissance de qui il est pour pouvoir l'adorer. Pour la communion fraternelle, bah, on a cet agape juste après et on a vraiment à cœur de pouvoir le vivre. Mais on a aussi autre chose qui est fort sur le cœur de Raymond depuis déjà quelques temps et pour, sur le cœur de plusieurs, je le sais, parce que à chaque fois qu'on a eu un témoignage dans le cadre du culte, les gens se sont dit « Ah ouais, ça c'était fort, c'était bien, etc. » Et on a à cœur de remettre le témoignage dans le culte. Donc de pouvoir vraiment, voilà, de manière très régulière, donc avoir quelqu'un qui puisse témoigner. Donc pour pouvoir avoir ça, il faut que nous, on vive des témoignages. Ce n'est pas un appel que je lance juste au pasteur, c'est à chacun de nous. Hein. Donc vivez avec Dieu et sentez-vous libre de venir nous parler de ce que le Seigneur fait dans votre cœur. Et on aimerait me donner l'opportunité de s'encourager à travers le vécu. Pas, c'est bien, hein, je suis très conscient que quand on entend le pasteur... ou moi, ou quelqu'un, enfin, parler, il y a quand même une distance qui est créée parce qu'on se dit, ah, c'est leur habitude, leur quotidien, ou etc. Mais quand c'est notre frère, notre voisin de droite, notre voisin de gauche, etc., qu'on connaît, et qui vient témoigner de ce que Dieu fait, ça a tout de suite un impact qui est différent. Pas vrai ? Je le crois. Et on a envie de ça. Donc, on a envie de vraiment se donner l'opportunité de vivre ça et de voir ce que vous vivez dans vos vies. Et ça sera peut-être l'occasion autour du repas de déjà commencer à échanger comment Dieu intervient et agit dans vos vies. Et voilà, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se faire. Peut-être que même vous, le Seigneur vous imprime ou vous met des choses pressantes sur votre cœur. Venez nous voir, parlez-en et qu'on puisse voir comment on peut avancer dans cette dynamique d'adoration et de communion fraternelle.
Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est un vaste programme, mais c'est tellement important. Tellement important de rencontrer Dieu et de le connaître. Moi, j'aime beaucoup ce Jacques qui dit Abraham, il était l'ami de Dieu. Abimélec, qui dit, en parlant d'Abraham, il dit, tu es un prince de Dieu. Ben ça, c'est incroyable. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais un prince de Dieu. Ami de Dieu, bon, peut-être, parce que je suis pasteur, il dit oui, voilà. Mais c'est, non, moi, j'aimerais réellement être un ami de Dieu. Et pour être un ami de Dieu, il faut que je sois tout près de lui. Moi, des amis, j'en ai pas 50 000. Il y a des gens qui disent toujours, ouais, j'ai plein d'amis sur Facebook, j'ai 100... Non, moi, j'ai pas 150 000 amis. Et sur Facebook, c'est pas mes amis. Mes amis, c'est ceux avec qui je vais boire une bière avec eux, quoi. Non, mais c'est des gens avec qui je vais passer du temps avec eux, quoi. Avec qui on peut partager. On peut vraiment se... c'est des bons moments, quoi. Et ça, avec Dieu, moi, c'est mon rêve. Je vous le dis sincèrement, mon rêve, c'est de... Et un jour, dans ma tête, ça fait tilt. J'ai dit, je veux danser avec Dieu. Et je sais que quand j'arriverai au ciel, c'est la première chose. Jésus va me dire, on danse ensemble. Moi, j'ai envie de danser avec Dieu. J'ai envie qu'il me prenne et puis qu'il me fasse virevolter et tout. Je sais pas, c'est bête, hein, mais j'ai envie de ça. Je le fais déjà avec ma femme, mais avec Dieu, ça sera encore beaucoup mieux. Voilà, je laisse finir le mot à Mathieu qui puisse finir le dernier mot.
Le dernier mot. Non, j'ai rien à rajouter. Voilà, simplement, donc c'est pour ça, j'ai quand même à vous rajouter. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de rentrer dans cette semaine de jeûne et prière et vraiment de nous inviter chacun à porter ça dans notre cœur. Adoration, communion fraternelle. Et les choses, ce n'est pas un problème. Il y a plein d'autres choses que le Seigneur nous met sur le cœur, mais je crois que le Seigneur va les mettre dans l'ordre. Mais qu'il soit vraiment le centre et qu'on puisse s'aimer, puisque c'est à ça que les gens verront que nous sommes ses disciples. Alors, qu'on puisse vraiment vivre ça, qu'on puisse s'encourager. Et peut-être vous avez des idées, alors partagez-les les uns aux autres, partagez-les nous, et puis ce qu'on pourrait essayer de mettre en place, pourquoi pas le faire. OK ? Super.